fall into big savings, all in the Kroger app.
Buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get three-pound packs of flavorful 80% lean ground beef for $2.99 a pound with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
À Monsieur Eugène Lambert, des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les maîtres sonneurs de George Sand. À Monsieur Eugène Lambert. Mon cher enfant, puisque tu aimes à m'entendre raconter ce que racontaient les paysans à la veillée dans ma jeunesse, quand j'avais le temps de les écouter, je vais tâcher de me rappeler l'histoire d'Étienne Depardieu et d'en recoudre les fragments épars dans ma mémoire. Elle me fut dite par lui-même, en plusieurs soirées de brayage. C'est ainsi, tu le sais, qu'on appelle les heures assez avancées de la nuit, où l'on broie le chanvre, et où chacun alors a porté sa chronique. Il y a déjà longtemps que le père Depardieu dort du sommeil des justes, et il était assez vieux quand il me fit le récit des naïves aventures de sa jeunesse. C'est pourquoi je le ferai parler lui-même, en imitant sa manière autant qu'il me sera possible. Tu ne me reprocheras pas d'y mettre de l'obstination, toi qui sais, par expérience de tes oreilles, que les pensées et les émotions d'un paysan ne peuvent être traduites dans notre style sans s'y dénaturer entièrement et sans y prendre un air d'affectation choquante. Tu sais aussi, par expérience de ton esprit, que les paysans devinent ou comprennent beaucoup plus qu'on ne les en croit capables, et tu as été souvent frappé de leurs aperçus soudains qui, même dans les choses d'art, ressemblaient à des révélations. Si je fusse venu te dire, dans ma langue et dans la tienne, certaines choses que tu as entendues et comprises dans la leur, tu les aurais trouvées si invraisemblables de leur part, que tu m'aurais accusé d'y mettre du mien à mon insu, et de leur prêter des réflexions et des sentiments qu'ils ne pouvaient avoir. En effet, il suffit d'introduire dans l'expression de leurs idées un mot qui ne soit pas de leur vocabulaire, pour qu'on se sente porté à révoquer en doute l'idée même émise par eux. Mais, si on les écoute parler, on reconnaît que s'ils n'ont pas, comme nous, un choix de mots appropriés à toutes les nuances de la pensée, ils en ont encore assez pour formuler ce qu'ils pensent et décrire ce qui frappe leur sens. Ce n'est donc pas, comme on me l'a reproché, pour le plaisir puéril de chercher une forme inusitée en littérature, encore moins pour ressusciter d'anciens tours de langage et des expressions vieillies que tout le monde entend et connaît de reste, que je vais m'astreindre au petit travail de conserver au récit d'Étienne Depardieu la couleur qui lui est propre. C'est parce qu'il m'est impossible de le faire parler comme nous, sans dénaturer les opérations auxquelles se livrait son esprit, en s'expliquant sur des points qui ne lui étaient pas familiers, mais où il portait évidemment un grand désir de comprendre et d'être compris. Si, malgré l'attention et la conscience que j'y mettrai, tu trouves encore quelquefois que mon narrateur voit trop clair ou trop trouble dans les sujets qu'il aborde, ne t'en prends qu'à l'impuissance de ma traduction. Forcé de choisir dans les termes usités de chez nous ceux qui peuvent être entendus de tout le monde, je me prive volontairement des plus originaux et des plus expressifs. Mais, au moins, j'essaierai de n'en point introduire qui eussent été inconnus aux paysans que je fais parler, lequel, bien supérieur à ceux d'aujourd'hui, ne se piquait pas d'employer des mots inintelligibles pour ses auditeurs et pour lui-même. Je te dédie ce roman, non pour te donner une marque d'amitié maternelle, dont tu n'as pas besoin pour te sentir de ma famille, mais pour te laisser, après moi, un point de repère dans tes souvenirs de ce Berry qui est presque devenu ton pays d'adoption. Tu te rappelleras qu'à l'époque où je l'écrivais, tu disais « À propos, je suis venu ici il y a bientôt 10 ans pour y passer un mois. Il faut pourtant que je songe à m'en aller. » Et comme je n'en voyais pas la raison, tu m'as représenté que tu étais peintre, que tu avais travaillé 10 ans chez nous pour rendre ce que tu voyais et sentais dans la nature, et qu'il te devenait nécessaire d'aller chercher à Paris le contrôle de la pensée et de l'expérience des autres. Je t'ai laissé partir, mais à la condition que tu reviendrais passer ici tous les étés. Dès à présent, n'oublie pas cela non plus. Je t'envoie ce roman comme un son lointain de nos cornemuses pour te rappeler que les feuilles poussent, que les rossignols sont arrivés et que la grande fête printanière de la nature va commencer aux champs. George Sand, Nohant, le 17 avril 1853. Fin de « À Monsieur Eugène Lambert », enregistré par Ezois, en Belgique, en mai 2008.
Première veillée, des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine et Kurt Boulet, Les Maîtres Sonneurs de George Sand. Première veillée. Je ne suis point né d'hier, disait, en 1828, le père Étienne. Je suis venu en ce monde, autant que je peux croire, l'année 54 ou 55 du siècle passé. Mais n'ayant pas grande souvenance de mes premiers ans, je ne vous parlerai de moi qu'à partir du temps de ma première communion, qui eut lieu en 70, à la paroisse de Saint-Chartier, pour l'or desservi par M. l'abbé Montpérou, lequel est aujourd'hui bien sourd et bien cassé. Ce n'est pas que notre paroisse de Nohant fût supprimée dans ce temps-là, mais notre curé étant mort, il y eut, pour un bout de temps, réunion des deux églises sous la conduite du prêtre de Saint-Chartier, et nous allions tous les jours à son catéchisme, moi, ma petite cousine, un gars appelé Joseph, qui demeurait en la même maison que mon oncle, et une douzaine d'autres enfants de chez nous. Je dis mon oncle pour abréger, car il était mon grand-oncle, frère de ma grand-mère, et avait nom Brulet, d'où sa petite-fille, étant seule héritière de son lignage, était appelée Brulette, sans qu'on fît jamais mention de son nom de baptême, qui était Catherine. Et pour vous dire tout de suite les choses comme elles étaient, je me sentais déjà d'aimer Brulette plus que je n'y étais obligé comme cousin, et j'étais jaloux de ce que Joseph demeurait avec elle dans un petit logis, distant d'une portée de fusil des dernières maisons du bourg, et du mien d'un quart de lieue de pays. De manière qu'il la voyait à toute heure, et qu'avant le temps qui nous rassembla au catéchisme, je ne la voyais pas tous les jours. Voici comment le grand-père à Brulette et la mère à Joseph demeuraient sous même chaume. La maison appartenait au vieux, et il en avait loué la plus petite moitié à cette femme veuve qui n'avait pas d'autre enfant. Elle s'appelait Marie Picot, et était encore mariable, car elle n'avait pas dépassé de grand-chose la trentaine, et se ressouvenait bien, dans son visage et dans sa taille, d'avoir été une très jolie femme. On la traitait encore, par-ci, par-là, de la belle Mariton, ce qui ne lui déplaisait point, car elle eût souhaité se rétablir en ménage. Mais n'ayant rien que son œil vif et son parler clair, elle s'estimait heureuse de ne pas payer gros pour sa locature, et d'avoir pour propriétaire et pour voisin un vieux homme juste et secourable, qui ne la tourmentait guère et l'assistait souvent. Le père Brulet et la veuve Picot, dite Mariton, vivaient ainsi en bonne estime l'un de l'autre depuis une douzaine d'années, c'est-à-dire depuis le jour où, la mère à Brulette étant morte en la mettant au monde, cette Mariton avait soigné et élevé l'enfant avec autant d'amour et d'égard que le sien propre. Joseph, qui avait 3 ans de plus que Brulette, s'était vu bercé dans la même crèche, et la pouponne avait été le premier fardeau qu'on eût confié à ses petits bras. Plus tard, le père Brulet, voyant sa voisine gênée d'avoir ses deux enfants déjà force à surveiller, avait pris chez lui le garçon, si bien que la petite dormait auprès de la veuve et le petit auprès du vieux. Tous quatre, d'ailleurs, mangeaient ensemble, la Mariton apprêtant les repas, gardant la maison et rhabillant les nippes, tandis que le vieux, qui était encore solide au travail, allait en journée et fournissait au plus gros de la dépense. Ce n'est pas qu'il fût bien riche et que le vivre fût bien conséquent, mais cette veuve aimable et de bon cœur lui faisait honnête compagnie, et Brulette la regardait si bien comme sa mère, que mon oncle s'était accoutumé à la regarder comme sa fille, ou tout au moins comme sa bru. Il n'y avait rien au monde de si gentil et de si mignon que la petite fille ainsi élevée par Mariton. Comme cette femme aimait la propreté et se tenait toujours aussi brave que son moyen le lui permettait, elle avait, de bonne heure, accoutumé Brulette à se tenir de même. Et, à l'âge où les enfants se traînent et se roulent volontiers comme de petits animaux, celle-ci était si sage, si ragoûtante et si coquette dans toute son habitude que chacun la voulait embrasser. Mais déjà elle se montrait chiche de ses caresses et ne se familiarisait qu'à bonnes enseignes. Quand elle eut 12 ans, c'était déjà comme une petite femme par moments. Et, si elle s'oubliait à gaminer au catéchisme, emportée par la force de son jeune âge, elle se reprenait vitement, comme poussée au respect d'elle-même encore plus que de la religion. Je ne sais pas si nous aurions pu dire pourquoi, mais tous tant que nous étions de gaz assez diversieux au catéchisme, nous sentions la différence qu'il y avait entre elle et les autres fillettes. Parmi nous, il faut bien vous confesser qu'il y en avait d'un peu grand. Mêmement, Joseph avait 15 ans et j'en avais 16, ce qui était une honte pour nous deux, au dire de monsieur le curé et de nos parents. Ce retard provenait de ce que Joseph était trop paresseux pour se mettre l'instruction dans la tête, et moi trop bandit pour y donner attention. Si bien que, depuis 3 ans, Nous étions renvoyés de classe, et, sans l'abbé Montpérou, qui se montra moins exigeant que notre vieux curé, je crois que nous y serions encore. Et puis, il est juste de confesser aussi que les garçonnets sont toujours plus jeunes en esprit que les fillettes. Aussi, dans toute bande d'apprentis chrétiens, on a vu de tout temps la différence des deux espèces, les mâles étant tous grands et forts déjà, et les femelles toutes petites et commençant à peine à porter coiffe. Au reste, nous arrivions là aussi savants les uns comme les autres, ne sachant point lire, écrire encore moins, et ne pouvant retenir que de la manière dont les petits des oiseaux apprennent à chanter, sans connaître ni plein chant, ni latin, et à fine force d'écouter de leurs oreilles. Tout de même, monsieur le curé connaissait bien, dans le troupeau, ceux qui avaient l'entendement plus subtil et qui mieux retenaient sa parole. De ces cervelles fines, la plus fine était la petite Brulette, Émile et filles, et des plus épaisses, la plus épaisse paraissait celle de Joseph, Émile et garçon. Encore qu'il ne raisonna pas plus sottement qu'un autre, il était si peu capable d'écouter et de se payer des choses qu'il n'entendait guère, il marquait si peu de goût pour les enseignements, que je m'en étonnais, moi qui y mordais assez franchement quand je venais à bout de tenir mon corps tranquille et de rasseoir mes esprits grouillants. Brulette l'en grondait quelquefois, mais n'en tirait rien que des larmes de dépit. « Je n'en suis pas plus mécréant qu'un autre, disait-il, et je ne songe point à offenser Dieu. Mais les mots ne se mettent point en ordre dans ma souvenance, je n'y peux rien. » « Si fait, disait la petite, qui, déjà, avait avec lui le ton et l'usage du commandement. « Si tu voulais bien, tu peux ce que tu veux, mais tu laisses courir ton idée sur toute autre chose, et monsieur l'abbé a bien raison de t'appeler Joseph le distrait.
« Qu'il m'appelle comme il voudra, répondait Joseph, c'est un mot que je n'entends point. »
Mais nous l'entendions bien, nous autres, et l'expliquions en notre langage d'enfant, en l'appelant José l'Ébervigé, d'où le nom lui resta, à son grand déplaisir. Joseph était un enfant triste, d'une chétive corporance et d'un caractère tourné en dedans. Il ne quittait jamais Brulette et lui était fort soumis. Elle le disait, nonobstant, têtu comme un mouton, et le réprimandait à chaque moment. Mais encore qu'elle ne me fît pas grand reproche de ma fainéantise, j'aurais souhaité qu'elle s'occupât de moi aussi souvent que de lui. Malgré cette jalousie qu'il me donnait, j'avais pour lui plus d'égard que pour mes autres camarades, parce qu'il était des plus faibles et moi des plus forts. D'ailleurs, si je ne l'avais soutenu, Brulette m'en aurait beaucoup blâmé, et quand je lui disais qu'elle l'aimait plus que moi qui étais son parent, « Ce n'est point à cause de lui, disait-elle, c'est à cause de sa mère que j'aime plus que vous deux. S'il prenait du mal, je n'oserais point rentrer à la maison, et comme il ne pense jamais à ce qu'il fait, elle m'a tant en chargé de penser pour deux que je tâche de n'y point manquer. » J'entends souvent dire aux bourgeois, « J'ai fait mes études avec un tel, c'est mon camarade de collège. » Nous autres paysans, qui n'allions pas même à l'école dans mon jeune temps, nous disons « J'ai été au catéchisme avec un tel, c'est mon camarade de communion. » C'est de là que commencent les grandes amitiés de jeunesse et quelquefois aussi des haïtions qui durent toute la vie. Au champ, au travail, dans les fêtes, on se voit, on se parle, on se prend, on se quitte. Mais, au catéchisme, qui dure un an et souvent deux, faut se supporter ou s'entraider 5 ou 6 heures par jour. Nous partions en bande le matin à travers les prés et les pâtureaux, par les traquettes, par les échaliers, par les traînes, et nous revenions, le soir, par où il plaisait à Dieu, car nous profitions de la liberté pour courir de tous côtés comme des oiseaux folâtres. Ceux qui se plaisaient ensemble ne se quittaient guère. Ceux qui n'étaient point gentils allaient seuls ou s'entendaient ensemble pour faire des malices et des peurs aux autres. Joseph avait sa manière, qui n'était ni terrible ni sournoise, mais qui n'était pas non plus bien aimable. Je ne me souviens point de l'avoir jamais vu bien réjoui, ni bien épeuré, ni bien content, ni bien fâché d'aucune chose qui nous arrivait. Dans les batailles, il ne se mettait point de côté et recevait les coups sans savoir les rendre, mais sans faire aucune plainte. On eût dit qu'il ne les sentait pas. Quand on s'arrêtait pour quelque amusette, il s'en allait soir ou coucher à 3 ou 4 pas des autres, et ne disant mot, répondant hors de propos, il avait l'air d'écouter ou de regarder quelque chose que les autres ne saisissaient point. C'est pourquoi il passait pour être de ceux qui voient le vent. Brulette, qui connaissait sa lubie et qui ne voulait pas s'expliquer là-dessus, l'appelait quelquefois sans qu'il lui répondît. Alors elle se mettait à chanter, et c'était la manière certaine de le réveiller, comme quand on siffle pour dérouter ceux qui ronflent. Vous dire pourquoi je me pris d'attache pour un camarade si peu jovial, je ne saurais.
car j'étais tout son contraire. Je ne me pouvais point passer de compagnie, et j'allais toujours écoutant et observant les autres, me plaisant à discourir et à questionner, m'ennuyant seul et cherchant la gaieté et l'amitié. C'est peut-être à cause de ça que, plaignant ce garçon sérieux et renfermé, je m'accoutumais à imiter Brulette, qui toujours le secouait, et, par là, lui rendait plus d'office qu'elle n'en recevait, et supportait son humeur plus qu'elle ne la gouvernait. En parole, elle était bien la maîtresse avec lui. Mais comme il ne savait suivre aucun commandement, c'était elle, et c'était moi par contre-coup, qui étions à sa suite et patientions avec lui. Enfin, le jour de la première communion arriva, et, en revenant de la messe, j'avais fait si ferme propos de ne me point laisser aller à mes vacarmes que je suivis Brulette chez son grand-père, comme le plus raisonnable exemple qui me put retenir. Tandis qu'elle allait, par commandement de la Mariton, tirer le lait de sa chèvre, nous étions restés, Joseph et moi, dans la chambre où mon vieux oncle causait avec sa voisine. Nous étions occupés à regarder les images de dévotion que le curé nous avait données, en souvenir du sacrement, où, pour mieux dire, je les regardais seuls, car Joseph songeait d'autre chose et les maniait sans les voir. Or, on ne faisait plus attention à nous, et la Mariton disait à son vieux voisin, à propos de notre première communion, « Voilà une grande affaire gagnée, et, à cette heure, je pourrais louer mon gars. C'est ce qui me décide à faire ce que je vous ai dit. » Et comme mon oncle secouait la tête tristement, elle reprit, « Écoutez une chose, voisin, mon José n'a point d'esprit. Oh, ça, tant pis, je le sais bien. Il tient de défunt son pauvre cher homme de père, qui n'avait pas deux idées par chaque semaine, et qui n'en a pas moins été un homme de bien et de conduite. Mais c'est tout de même une infirmité que d'avoir si peu de suite dans le raisonnement. Et quand, par malheur avec ça, on tombe dans le mariage avec une tête folle, tout va au plus mal en peu de temps. C'est pourquoi je m'avise, à mesure que mon garçon grandit par les jambes, que ce n'est point sa cervelle qui le nourrira, et que, si je lui laissais quelques écus, je mourrai plus tranquille. Vous savez le bien que fait une petite épargne. Dans nos pauvres ménages, ça sauve tout. Je n'ai jamais pu rien mettre de côté, et il faut croire que je ne suis plus assez jeune pour plaire, puisque je ne trouve point à me remarier. Eh bien, s'il en est ainsi, la volonté de Dieu se fasse. Je suis toujours assez jeune pour travailler, et puisque m'y voilà, apprenez, mon voisin, que l'aubergiste de Saint-Chartier cherche une servante. Il paye un bon gage, 30 écus par an, et il y a les profits qui montent environ à la moitié. Avec ça, forte et réveillée comme je me sens d'être, en 10 années j'aurais fait fortune, je me serais donné de l'aise pour mes vieux jours, et j'en pourrais laisser à mon pauvre enfant. Qu'est-ce que vous en dites ? Le père Brulet pensa un peu et répondit, « Vous avez tort, ma voisine. Vrai, vous avez tort. » La Mariton songea aussi un peu, et, comprenant bien l'idée du vieux, « sans doute, dit-elle, une femme dans une auberge de campagne est exposée au blâme, et quand même elle se comporte sagement, on n'y croit point. Pas vrai, voilà ce que vous dites. Eh bien, que voulez-vous ? Ça m'ôtera tout à fait la chance de me remarier. Mais ce qu'on souffre pour ses enfants, on ne le regrette point. Et mêmement on se réjouit quasiment des peines. C'est qu'il y a pis que des peines, dit mon oncle. Il y a des hontes, et ça retombe sur les enfants. La Mariton soupira. Oui, dit-elle, on est journellement exposé à des affronts dans ces maisons-là. Il faut toujours se garer, se défendre. Si on se fâche trop et que ça repousse la pratique, les maîtres ne sont point contents. Mêmement, dit le vieux, il y en a qui cherchent des femmes de bonne mine et de belle humeur comme vous pour achalander leur cave. Et il ne faut quelquefois qu'une servante bien hardie pour qu'un aubergiste fasse de meilleures affaires que son voisin. Savoir, reprit la voisine, on peut être gai, accorte et preste à servir le monde, sans se laisser offenser. On est toujours offensé en mauvaises paroles, dit le père Brulet, et ça doit coûter gros à une honnête femme de s'habituer à ces manières-là. Songez donc comme votre fils en sera mortifié quand, par rencontre, il entendra sur quel ton les rouliers et les colporteurs plaisanteront avec sa mère. Par bonheur qu'il est si simple, répondit la Mariton en regardant Joseph. Je le regardais aussi, et m'étonnais qu'il n'entendît rien du discours que sa mère ne tenait point à voix si basse que je n'eusse ramassé le tout. Et j'en augurais qu'il écoutait gros, comme nous disions dans ce temps-là, pour signifier une personne dure de ses oreilles. Il se leva bientôt, et s'en fut joindre Brulette en sa petite bergerie, qui n'était qu'un pauvre hangar en planches rembourrées de paille, où elle tenait un lot d'une douzaine de bêtes. Il s'y jeta sur les bourrées,
et comme je l'avais suivi, par crainte d'être jugé curieux si je restais sans lui à la maison, je vis qu'il pleurait en dedans, encore que ses yeux n'eussent point de larmes. « Est-ce que tu dors, José ?» lui dit Brulette. « Que te voilà couché comme une ouaille malade ? Allons, donne-moi ces fagots où te voilà étendu, que je fasse manger la feuille à mes moutons. » Et ce faisant, elle se prit à chanter. Mais tout doucement, car il ne convient guère de brailler un jour de première communion. Il me parut que son chant faisait sur Joseph l'effet accoutumé de le retirer de ses songes. Il se leva et s'en fut, et Brulette me dit « Qu'est-ce qu'il a ? Je le trouve plus sot que d'accoutumance. » « Je crois bien, lui répondis-je, qu'il a fini par entendre qu'il va être loué et quitter sa mère. »« Il s'y attendait bien, reprit Brulette. N'est-ce pas dans l'ordre qu'il entre en condition, sitôt le sacrement reçu ? Si je n'avais le bonheur d'être seul enfant à mon grand-père, il me faudrait bien aussi quitter la maison et gagner ma vie chez les autres. » Brulette ne me parut pas avoir grand regret de se séparer de Joseph. Mais quand je lui eus dit que la Mariton allait se louer aussi et demeurer loin d'elle, elle se prit à sangloter, et, courant la trouver, elle lui dit en lui jetant ses bras au cou, « Est-ce vrai, ma mignonne, que vous voulez me quitter ?»« Qui te dit cela ?» répondit la Mariton. « Ce n'est point encore décidé. »« Si fait, s'écria Brulette, vous l'avez dit et me le voulez tenir caché. »« Puisqu'il y a des gars curieux qui ne savent point retenir leur langue, » dit la voisine en me regardant, « il faut donc que je te le confesse. » « Oui, ma fille, il faut que tu t'y soumettes comme un enfant courageux et raisonnable qui a donné aujourd'hui son âme au bon Dieu. »« Comment, mon papa ? » dit Brulette à son grand-père. « Vous êtes consentant de la laisser partir ? Qui est-ce qui aura donc soin de vous ?»« Toi, ma fille, » répondit la Mariton, « te voilà assez grande pour suivre ton devoir. Écoute-moi, et vous aussi, mon voisin, car voilà la chose que je ne vous ai point dite. » Et, prenant la petite sur ses genoux, tandis que j'étais dans les jambes de mon oncle, son air chagrin m'ayant attiré à lui, la Mariton continua à raisonner pour l'un et pour l'autre. « Il y a longtemps, dit-elle, que, sans l'amitié que je vous devais, j'aurais eu tout profit à vous payer pension pour mon Joseph, que vous m'auriez gardé, tandis que j'aurais amassé, en surplus, quelque chose au service des autres. Mais je me suis sentie engagée à t'élever, jusqu'à ce jour, ma Brulette, parce que tu étais la plus jeune, et parce qu'une fille a besoin plus longtemps d'une mère qu'un garçon. Je n'aurais point eu le cœur de te laisser avant le temps où tu te pouvais passer de moi. Mais voilà que le temps est venu, et si quelque chose te doit reconsoler de me perdre, c'est que tu vas te sentir utile à ton grand-père. Je t'ai appris le ménagement d'une famille et tout ce qu'une bonne fille doit savoir pour le service de ses parents et de sa maison. Tu t'y emploieras pour l'amour de moi, et pour faire honneur à l'instruction que je t'ai donnée. Ce sera ma consolation et ma fierté d'entendre dire à tout le monde que ma Brulette soigne dévotieusement son grand-père et gouverne son avoir comme ferait une petite femme. Allons, prends courage, et ne me retire pas le peu qui m'en reste, car si tu as de la peine pour cette départie, j'en ai encore plus que toi. Songe que je quitte aussi le père Brulet, qui était pour moi le meilleur des amis, et mon pauvre José, qui va trouver sa mère et votre maison bien à dire. Mais puisque c'est par le commandement de mon devoir, tu ne m'en voudrais point détourner. » Brulette pleura encore jusqu'au soir, et fut hors d'état d'aider la Mariton en quoi que ce soit. Mais, quand elle la vit cacher ses larmes tout en préparant le souper, elle se jeta encore à son cou, lui jura d'observer ses paroles, et se mit à travailler aussi d'un grand courage. On m'envoya quérir Joseph qui oubliait, non pour la première fois ni pour la dernière, l'heure de rentrer et de faire comme les autres. Je le trouvai en un coin, songeant tout seul et regardant la terre, comme si ses yeux y eussent voulu prendre racine. Contre sa coutume, il se laissa arracher quelques paroles où je vis plus de mécontentement que de regret. Il ne s'étonnait point d'entrer en service, sachant bien qu'il était en âge et ne pouvait faire autrement. Mais, sans marquer qu'il eût entendu les desseins de sa mère, il se plaignit de n'être aimé de personne et de n'être estimé capable d'aucun bon travail. Je ne le pus faire expliquer davantage, et, durant la veillée, où je fus retenu pour faire mes prières avec Brulette et lui, il parut boudé, tandis que Brulette redoublait de soins et de caresses pour tout son monde. Joseph fut loué au domaine de l'Aulnière, chez le père Michel, en office de Boiron. La Mariton entra comme servante à l'auberge du Bœuf Couronné, chez Benoît, de Saint-Chartier. Brulette resta auprès de son grand-père, et moi chez mes parents, qui, ayant un peu de bien, ne me trouvèrent pas de trop pour les aider à le cultiver.
Mon jour de première communion m'avait beaucoup secoué les esprits. J'y avais fait de gros efforts pour me ranger à la raison qui convenait à mon âge, et le temps du catéchisme avec Brulette m'avait changé aussi. Son idée se trouvait toujours mêlée, je ne sais comment, avec celle que je voulais donner au bon Dieu, et, tout en mûrissant à la sagesse dans ma conduite, je sentais ma tête s'en aller en des folletés d'amour qui n'étaient point encore de l'âge de ma cousine, et qui, mêmement pour le mien, devançaient un peu trop la bonne saison. Dans ce temps-là, mon père m'emmena à la foire d'Orval, du côté de Saint-Amand, pour vendre une jument poulinière, et, pour la première fois de ma vie, je fus 3 jours absent de la maison. Ma mère avait observé que je n'avais pas tant de sommeil et d'appétit qu'il m'en fallait pour soutenir mon croît, lequel était plus hâtif qu'il n'est d'habitude dans nos pays, et mon père pensait qu'un peu d'amusement me serait bon. Mais je n'en pris pas tant, à voir du monde et des endroits nouveaux, comme j'en aurais eu 6 mois auparavant. J'avais comme une languition sotte qui me faisait regarder toutes les filles sans oser leur dire un mot. Et puis, je songeais à Brulette, que je m'imaginais pouvoir épouser, par la seule raison que c'était la seule qui ne me fit point peur, et je ruminais le compte de ses années et des miennes, ce qui ne faisait pas marcher le temps plus vite que le bon Dieu ne l'avait réglé à son horloge. Comme je revenais en croupe derrière mon père, sur une autre jument que nous avions achetée à la foire, nous fîmes rencontre, en un chemin creux, d'un homme entre les deux âges qui conduisait une petite charrette, très chargée de mobilier, laquelle, n'étant traînée que d'un âne, restait embourbée et ne pouvait faire un pas de plus. L'homme était en train d'allégir le poids, en posant sur le chemin une partie de son chargement, ce que voyant mon père, « Descends, me dit-il, et secourons le prochain dans l'embarras. » L'homme nous remercia de notre offre, et, comme parlant à sa charrette, « Allons, petite, éveille-toi, dit-il, j'aime autant que tu ne risques point de verser. » Alors je vis se lever, de dessus un matelas, une jolie fille qui me parut avoir 15 ou 16 ans à première vue, et qui demanda, en se frottant les yeux, ce qu'il y avait de nouveau. « Il y a que le chemin est mauvais, ma fille, » dit le père en la prenant dans ses bras. « Viens, et ne te mets point les pieds dans l'eau. Car vous saurez, » dit-il à mon père, « qu'elle est malade de fièvre pour avoir poussé trop vite en hauteur. Voyez quelle grande vigne folle pour une enfant d'11 ans et demi. »« Vrai Dieu, » dit mon père, « voilà un beau brin de fille, et jolie comme un jour encore que la fièvre l'ait blêmie. Mais ça passera, et avec un peu de nourriture, ça ne sera pas d'une mauvaise défaite. » Mon père, parlant ainsi, avait la tête encore remplie du langage des maquignons en foire. Mais, voyant que la jeune fille avait laissé ses sabots sur la charrette, et qu'il n'était point aisé de les y retrouver, il m'appela, disant « Tiens, toi, tu es bien assez fort pour tenir cette petite un moment. » Et, la mettant dans mes bras, il attela notre jument à la place de l'âne bourdi, et sortit la charrette de ce mauvais pas. Mais il y en avait un second, que mon père connaissait pour avoir suivi plusieurs fois le chemin, et, me faisant appel de continuer, il marcha en avant avec l'autre paysan qui tirait son âne par les oreilles. Je portais donc cette grande fillette et la regardais avec étonnement, car si elle avait la tête de plus que Brulette, on voyait bien, à sa figure, qu'elle n'était pas plus vieille. Elle était blanche et menue comme un flambeau de cire vierge, et ses cheveux noirs, débordant d'un petit bonnet en mode étrangère, qui s'était dérangé dans son sommeil, me tombait sur la poitrine et me pendait quasiment jusqu'aux genoux. Je n'avais jamais rien vu de si bien achevé que son visage pâle, ses yeux bleu clair, bordés de soie très épaisse, son air doux et fatigué, et mêmement un signe tout à fait noir qu'elle avait au coin de la bouche et qui rendait sa beauté très étrange et difficile à oublier. Elle semblait si jeune que mon cœur ne me disait rien à côté du sien, et ce n'était peut-être pas tant son manque d'années que la longueur de sa maladie, qui me la faisait paraître si enfant. Je ne lui parlais point, et marchais toujours sans la trouver lourde, mais ayant du plaisir à la regarder, comme on en sent devant toute chose belle, que ce soit fille ou femme, fleur ou fruit. Comme nous approchions de la seconde gane, où son père et le mien recommençaient, l'un à tirer son cheval, l'autre à pousser sa roue, la fillette me parla en un langage qui me fit rire, vu que je n'en comprenais pas un mot. Elle s'étonna de mon étonnement, et me parlant alors comme nous parlons, « Ne vous ruinez pas le corps à me porter, » dit-elle, « je marcherai bien sans sabots, j'y suis aussi habituée que les autres. »« Oui, mais vous êtes malade, » que je lui répondis, « et j'en porterai bien 4 comme vous. Mais de quel pays êtes-vous donc, que vous parliez si drôlement tout à l'heure ?»« De quel pays ? » dit-elle, « Je ne suis pas d'un pays. Je suis des bois, voilà tout. Et vous, de quel pays que vous êtes donc ?
Oh, ma fine, si vous êtes des bois, je suis des blés, que je lui répondis en riant. J'allais cependant la questionner davantage quand son père vint me la reprendre.
« Allons, » fit-il, après avoir donné une poignée de main à mon père, « en vous remerciant, mes braves gens. Et toi, petite, embrasse donc ce bon garçon qui t'a porté comme une chasse. » La fillette ne se fit point prier. Elle n'était pas encore dans l'âge de la honte. Et n'y entendant pas malice, elle n'y faisait point de façon. Elle m'embrassa sur les deux joues, en me disant « Merci à vous, mon beau serviteur. » Et, passant au bras de son père, elle fut remise sur son matelas et parut pressée de reprendre son somme, sans aucun souci des chaos et des aventures du chemin. « Encore adieu, » nous dit son père, qui me prit le genou pour me replacer en croupe sur la jument. « Un beau garçon, » fit-il à mon père, en me regardant, « et aussi avancé dans l'âge que vous dites qu'il a, que ma petite dans le sien. » « Il se sent bien aussi un peu d'en être malade, » répondit mon père, « mais, le bon Dieu aidant, le travail guérira tout. Excusez-nous si nous prenons les devants, nous allons loin et voulons arriver chez nous devant la nuit. » Là-dessus, mon père talonna notre monture, qui prit le trot, et moi, me retournant, je vis que l'homme à la charrette coupait sur la droite et s'en allait à l'encontre de nous. Je pensai bientôt à autre chose, mais Brulette m'étant revenue dans la tête, je songeai au franc baiser que m'avait donné cette petite fille étrangère, et me demandai pourquoi Brulette répondait par des tapes à ceux que je lui voulais prendre. Et comme la route était longue et que je m'étais levé avant jour, je m'endormais derrière mon père, mêlant, je ne sais comment, les figures de ces deux fillettes dans ma tête embrouillée de fatigue. Mon père me pinçait pour me réveiller, car il me sentait lui peser sur les épaules et craignait de me voir tomber. Je lui demandai qui étaient ces gens que nous avions rencontrés. « Qui ? » fit-il, en se moquant de mes esprits alourdis. « Nous avons rencontré plus de 500 mondes depuis ce matin. Cette âne et cette charrette ? Ah bon ? » dit-il. « Ma foi, je n'en sais rien. Je n'ai pas songé à m'en enquérir. Ça doit être des Marchois ou des Champenois, car ça a un accent étranger. Mais j'étais si occupé de voir si cette jument a un bon coup de collier que je ne me suis point intéressé à autre chose. De vrai, elle tire bien et n'est point rétive à la peine. Je crois qu'elle fera un bon service et que décidément je ne l'ai point surpayée. Depuis ce temps-là, le voyage m'avait sans doute été bon, je pris le dessus et commençai à avoir goût au travail. Mon père m'ayant donné le soin de la jument, et puis celui du jardin, enfin celui du pré, je trouvai, petit à petit, de l'agrément à bêcher, planter et récolter. Mon père était veuf depuis longtemps, et se montrait désireux de me mettre en jouissance de l'héritage que ma mère m'avait laissé. Il m'intéressait donc à tous nos petits profits, et ne souhaitait rien tant que de me voir devenir bon cultivateur. Il ne fut pas longtemps sans reconnaître que je mordais à belles dents dans ce pain-là, car si la jeunesse a besoin d'un grand courage pour se priver de plaisir au profit des autres, il ne lui en faut guère pour se ranger à ses propres intérêts, surtout quand ils sont mis en commun avec une bonne famille, bien honnête dans les partages et bien d'accord dans le travail. Je restais bien un peu curieux de causette et d'amusement le dimanche, mais on ne me le reprochait point à la maison, parce que j'étais bon ouvrier tout à fait le long de la semaine. Et, à ce métier-là, je pris belle santé et belle humeur, avec un peu plus de raison dans la tête que je n'en avais annoncé au commencement. J'oubliais les fumées d'amour, car rien ne rend si tranquille comme de suer sous la pioche du lever au coucher du soleil. Et quand vient la nuit, ceux qui ont eu affaire à la terre grasse et lourde de chez nous, qui est la plus rude maîtresse qu'il y ait, ne s'amusent pas tant à penser qu'à dormir pour recommencer le lendemain. C'est de cette manière que j'attrapais tout doucement l'âge où il m'était permis de songer, non plus aux petites filles, mais aux grandes. Et, de même qu'aux premiers éveils de mon goût, je retrouvai encore ma cousine Brulette plantée dans mon inclination, avant toutes les autres. Restée seule avec son grand-père, Brulette avait fait de son mieux pour devancer les années par sa raison et son courage. Mais il y a des enfants qui naissent avec le don ou le destin d'être toujours gâtés. Le logement de la Mariton avait été loué à la mère Lamouche, de Vieilleville, qui n'était point à son aise et qui se dépêcha de servir les Brulets comme si elle eût été à leur gage, espérant par là être écoutée quand elle remontrerait ne pouvoir payer les 10 écus de sa locature. C'est ce qui arriva, et Brulette, se voyant aidée, devancée et flattée en toutes choses par cette voisine, prit le temps et l'aise de pousser en esprit et en beauté, sans se trop fouler l'âme ni le corps.
Fin de la première veillée.
Veillée numéro 2 des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Les maîtres sonneurs de George Sand. Veillée numéro 2. La petite brulette était donc devenue la belle brulette, dont il était déjà grandement parlé dans le pays pour ce que, de mémoire d'homme, on avait vu plus jolie fille, des yeux plus beaux, une plus fine taille, des cheveux d'un or plus doux avec une joue plus rose, la main comme un satin et le pied mignon comme celui d'une demoiselle. Tout ça vous dit assez que ma cousine ne travaillait pas beaucoup, ne sortait guère par les mauvais temps, avait soin de s'ombrager du soleil, ne lavait guère de lessive et ne faisait point œuvre de ses quatre membres pour la fatigue. Vous croiriez peut-être qu'elle était paresseuse ? Point. Elle faisait toutes choses dont elle ne se pouvait dispenser, tout à fait vite et tout à fait bien. Elle avait trop de raisonnement pour laisser perdre le bon ordre et la propreté dans son logis et pour ne point prévenir et soigner son grand-père comme elle le devait. D'ailleurs, elle aimait trop la braverie pour n'avoir pas toujours quelque ouvrage dans les mains. Mais, d'ouvrage fatigant, elle n'en avait jamais ouï parler. L'occasion n'y était point, et on ne saurait dire qu'il y eut de sa faute. Il y a des familles où la peine vient toute seule avertir la jeunesse qu'il n'est pas tant question de s'amuser en ce bas monde que de gagner son pain en compagnie de ses proches. Mais, dans le petit logis au père brûlé, il n'y avait que peu à faire pour joindre les deux bouts. Le vieux n'avait encore que la septantaine et bon ouvrier, très adroit pour travailler la pierre, ce qui, vous le savez, est une grande science dans notre pays, fidèle à l'ouvrage et vivement requis d'un chacun, il gagnait joliment sa vie, et grâce à ce qu'il était veuf et sans autre charge que sa petite fille, il pouvait faire un peu d'épargne pour le cas où il serait arrêté par quelque maladie ou accident. Son bonheur voulut qu'il se maintînt en bonne santé, en sorte que, sans connaître la richesse, il ne connaissait point la gêne. Mon père disait pourtant que notre cousine Brulette aimait trop la bien-aiseté, voulant faire entendre par là qu'elle aurait peut-être à en rabattre quand viendrait l'heure de s'établir. Il convenait avec moi qu'elle était aussi aimable et gentille en son parler qu'en sa personne, mais il ne m'encourageait point du tout à faire brique de mariage autour d'elle. Il la trouvait trop pauvre pour être si demoiselle et répétait souvent qu'il fallait, en ménage, ou une fille très riche, ou une fille très courageuse. « J'aimerais autant l'une que l'autre à première vue, disait-il, et peut-être qu'à la seconde vue, je me déciderais pour le courage encore plus que pour l'argent. Mais Brulette n'a pas assez de l'un ni de l'autre pour tenter un homme sage. » Je voyais bien que mon père avait raison. Mais les beaux yeux et les douces paroles de ma cousine avaient encore plus raison que lui avec moi et avec tous les autres jeunes gens qui la recherchaient. Car vous pensez bien que je n'étais pas le seul, et que, dès l'âge de 15 ans, elle se vit entourée de marjolais de ma sorte, qu'elle savait retenir et gouverner comme son esprit l'y avait porté de bonheur. On peut dire qu'elle était née fière et connaissait son prix, avant que les compliments lui en eussent donné la mesure. Aussi aimait-elle la louange et la soumission de tout le monde. Elle ne souffrait point qu'on fût hardi avec elle, mais elle souffrait bien qu'on y fût craintif, et j'étais, comme bien d'autres, attaché à elle par une forte envie de lui plaire, en même temps que dépité de m'y trouver en trop grande compagnie. Nous étions deux, pourtant, qui avions permission de lui parler d'un peu plus près, de lui donner du « toi », et de la suivre jusqu'en sa maison quand elle revenait avec nous de la messe ou de la danse. C'était Joseph Picot et moi, mais nous n'en étions pas plus avancés pour ça, et peut-être que, sans nous le dire, nous nous en prenions l'un à l'autre. Joseph était toujours à la métairie de l'Aulnière, à une demi-lieue de chez Brûlé, et moitié demi-lieue de chez moi. Il avait passé laboureur, et, sans être beau garçon, il pouvait le paraître aux yeux qui ne répugnent point aux figures tristes. Il avait la mine jaune et maigre, et ses cheveux bruns, qui lui tombait à plat sur le front et au long de ses joues, le rendait encore plus chétif dans son apparence. Il n'était cependant ni mal fait, ni mal gracieux de son corps, et je trouvais, dans sa mâchoire sèchement coudée, quelque chose que j'ai toujours observé être contraire à la faiblesse. On le jugeait malade parce qu'il se mouvait lentement et n'avait aucune gaieté de jeunesse, mais, le voyant très souvent, je savais qu'il était ainsi de sa nature et ne souffrait d'aucun mal. C'était pourtant un ouvrier très médiocre à la terre, pas très soigneux aux bestiaux et d'un caractère qui n'avait rien d'aimable. Son gage était le plus bas qu'on puisse payer dans un domaine à un valet de charrue, et encore s'étonnait-on que son maître le voulût bien garder si longtemps, car il ne savait rien faire prospérer au champ ni à l'étable. Mêmement, quand on l'en reprenait, il avait un air de dépit si farouche qu'on ne savait que penser. Mais le père Michel assurait qu'il n'avait jamais fait aucune mauvaise réponse, et il aimait mieux ceux qui se soumettent sans rien dire, même en faisant la grimace, que ceux qui flattent et qui trompent en caressant. Sa grande fidélité et le mépris qu'en toute chose il marquait pour les actions injustes le faisaient donc estimer de son maître, lequel disait encore de lui que c'était grand dommage de voir un garçon si honnête et si sage avoir les bras si molles et le cœur si indifférent à son ouvrage. Mais tel qu'il était, il le gardait par habitude et aussi par considération pour le père Brûlé, qui était un de ses amis très anciens. Dans ce que je viens de vous dire de lui, vous ne voyez point qu'il dût plaire aux filles. Aussi ne le regardait-elle que pour s'étonner seulement de ne jamais rencontrer ses yeux, qui étaient grands et clairs comme ceux d'une chouette, et semblaient ne lui servir de rien. Et cependant, j'étais toujours jaloux de lui, parce que Brulette lui marquait toujours une attention qu'elle n'avait pour personne, et qu'elle m'obligeait d'avoir aussi. Elle ne le taboulait plus, et marquait de vouloir accepter son humeur telle que Dieu l'avait tournée, sans se fâcher ni s'inquiéter de rien. Ainsi, elle lui passait de manquer de galanterie et mêmement de politesse, elle qui en exigeait tant de la part des autres. Il pouvait faire 1000 sottises, comme de s'asseoir sur la chaise qu'elle quittait et de la laisser en chercher une autre, de ne point lui ramasser ses pelotes de laine ou de fil quand elle venait à choir, de lui couper la parole ou de casser quelque épaulette ou ustensile à son usage. Et jamais elle ne lui disait un mot d'impatience, tandis qu'elle me grondait et me plaisantait s'il m'arrivait d'en faire seulement le quart. Et puis, elle prenait soin de lui comme s'il eût été son frère. Elle avait toujours un morceau de viande en réserve quand il venait la voir, et, soit qu'il eût faim ou non, le lui faisait manger, disant qu'il avait besoin de se nourrir le sang et de se renforcer l'estomac. Elle avait l'œil assez hard, ni plus ni moins que la Mariton, et mêmement s'en chargeait de les renouveler, disant que la mère n'avait point le temps de coudre et de tailler. Et enfin, elle menait souvent pâturer ses bêtes du côté où il travaillait et causait avec lui, encore qu'il causât bien peu et bien mal quand il s'y essayait. Et en outre, elle ne souffrait point qu'on fît mépris ou moquerie de son air triste ou de sa figure ébervigée. Elle répondait à toutes les critiques qu'on en voulait faire en disant qu'il n'avait pas une bonne santé, qu'il n'était pas plus sot que les autres, que s'il ne parlait mis, il n'en pensait pas moins, enfin qu'il valait mieux se taire que de parler pour ne rien dire. J'avais quelquefois bonne envie de la contrecarrer, mais elle m'arrêtait vite en disant « Il faut, tenez, que tu aies bien mauvais cœur d'abandonner ce pauvre gars à la risée des autres au lieu de le défendre quand on lui fait de la peine. Je t'aurais cru meilleur parent pour moi. » Alors, je faisais sa volonté et défendais Joseph, ne voyant cependant pas quelle maladie ou quelle affliction il pouvait avoir, à moins que la défiance et la paresse ne fussent infirmité de nature, comme possible était, encore qu'il me parût au pouvoir de l'homme de s'en guérir. De son côté, Joseph, sans me marquer d'aversion, me regardait aussi froidement que le reste du monde, et ne me témoignait point tenir compte de l'assistance qu'il recevait de moi en toute rencontre. Et, soit qu'il fût épris de Brulette comme les autres, soit qu'il ne le fût que de lui-même, souriait d'une étrange manière et prenait quasiment un air de mépris pour moi quand elle me donnait la plus petite marque d'amitié. Un jour, qu'il avait poussé la chose jusqu'à lever les épaules, je résolus d'en avoir explication avec lui, aussi doucement que possible, pour ne point fâcher ma cousine, mais assez franchement pour lui faire sentir qu'étant souffert par moi auprès d'elle avec tant de patience, il devait m'y souffrir avec le même égard. Mais, comme il y avait d'autres amoureux de Brulette autour de nous, je remis mon dessein à la première occasion où je le trouverais seul, et à cette fin, j'allai, au lendemain, le joindre en un champ où il travaillait. Je fus étonné de l'y trouver justement en compagnie de Brulette, qui était assise sur les racines d'un gros arbre, au revers du fossé où il était censé couper de l'épine pour faire des bouchures. Mais il ne coupait rien du tout, et pour tout travail, chapusait quelque chose qu'il mit vivement dans sa poche dès qu'il me vit, fermant son couteau et s'accotant de causer, comme si j'eusse été son maître le prenant en faute, ou comme s'il était en train de dire à ma cousine des choses bien secrètes où je le venais déranger. J'en fus si troublé et fâché que j'allais me retirer sans rien dire, quand Brulette m'arrêta, et, se remettant à filer, car elle aussi avait mis de côté son ouvrage en causant avec lui, me dit de m'asseoir auprès d'elle. Il me parut que c'était une avance pour endormir mon dépit et je m'y refusai, disant que le temps n'engageait guère à s'arrêter dans les fossés. De vrai, il faisait, sinon froid, du moins très humide. Le dégel rendait les eaux troubles et les herbes fangeuses. Il y avait encore de la neige dans les sillons et le vent était désagréable. Il fallait, à mon sens, que Brulette trouvât Joseph bien intéressant pour mener ses ouailles dehors ce jour-là, elle qui les faisait si souvent et si volontiers gardé par sa voisine. José, dit Brulette, voilà notre ami Tiennet qui boude, parce qu'il voit que nous avons un secret tous les deux. Ne veux-tu point que je lui en fasse part? Son conseil n'y gâterait rien, et il te dirait ce qu'il pense de ton idée. Lui, dit Joseph, qui recommença à lever les épaules comme il avait fait la veille, est-ce que le dos te démange quand tu me vois? Lui dis-je, un peu émalicé. Je le pourrais bien gratter d'une manière qui t'en guérirait une bonne fois. » Il me regarda en dessous comme prêt à mordre. Mais Brulette lui toucha doucement l'épaule du bout de sa quenouille et, l'appelant ainsi à elle, lui parla dans l'oreille. « Non, non, » répondit-il, sans prendre la peine de me cacher sa réponse. « Tiennet n'est bon à rien pour me conseiller. Il n'y connaît pas plus que ta chèvre. Et si tu lui dis la moindre chose, je ne te dirai plus rien. » Là-dessus, il ramassa sa tranche et sa serpe et s'en alla travailler plus loin. « Allons, » dit Brulette en se levant pour rassembler ses ouailles, « le voilà encore mécontent. Mais va, Tiennet, ça n'est rien de sérieux, je connais sa fantaisie, il n'y a rien à y faire et le mieux, c'est de ne pas le tourmenter. C'est un garçon qui a une petite folleté dans la tête depuis qu'il est au monde. Il ne sait ni ne peut s'en expliquer et le mieux est de le laisser tranquille car si on l'assassine de questions, il se prend à pleurer et on lui fait de la peine pour rien.
Mais ta vie pourtant, cousine, dis-je à Brulette, que tu sais bien confesser.
J'ai eu tort, répondit-elle. Je pensais qu'il avait une plus grosse peine. Celle qu'il a te ferait rire si je pouvais te la raconter, mais puisqu'il ne veut la dire qu'à moi, n'y pensons plus. Si c'est peu de chose, lui dis-je encore, tu n'en prendras peut-être plus tant de soucis.
Tu trouves donc que j'en prends trop, dit-elle. Est-ce que je ne dois pas ça à la femme qui l'a mise au monde et qui m'a élevée avec plus de soins et de caresses que son propre enfant?
Voilà une bonne raison, Brulette. Si c'est la Mariton que tu aimes dans son fils, à la bonne heure. Mais alors, je souhaiterais d'avoir la Mariton pour ma mère. Ça me vaudrait encore mieux que d'être ton cousin.
Oh, laisse donc dire des sottises comme ça à mes autres galants, répondit Brulette en rougissant un peu. Car aucun compliment ne l'avait jamais fâchée, encore qu'elle se donna l'air d'en rire. Et comme nous sortions du champ vis-à-vis de ma maison, elle y entra avec moi pour dire bonjour à ma sœur. Mais ma sœur était sortie, et à cause de ses moutons qui étaient sur le chemin, Brulette ne la voulut pas attendre. Pour la retenir un peu, j'inventai de lui retirer ses sabots pour en ôter les galoches de neige et les embraiser, et, la tenant ainsi par les pattes, puisqu'elle fut obligée de s'asseoir en m'attendant, j'essayai de lui dire, mieux que je n'avais encore osé le faire, l'ennui que l'amour d'elle m'avait amassé sur le cœur. Mais voyez le diable, jamais je n'ai pu trouver le fin mot de ce discours-là. J'aurais bien lâché le second et le troisième, mais le premier ne put sortir. J'en avais la sueur au front. La fillette aurait bien pu m'aider si elle l'eût voulu, car elle connaissait l'air de ma chanson, d'autres le lui avaient déjà seriné. Mais avec elle,
Il fallait de la patience et du ménagement, et encore que je ne fusse point tout à fait nouveau dans les discours de galanterie, ce que j'en avais échangé avec d'autres moins difficiles que Brulette, à seule fin de m'enhardir, ne m'avait rien enseigné de bon à dire à une jeunesse de grand prix comme était ma cousine. Tout ce que je sus faire fut de revenir sur la critique de son favori José. Elle en rit d'abord, et, peu à peu, voyant que j'en voulais faire un blâme sérieux, elle prit un air plus sérieux encore. « Laissons ce pauvre malheureux tranquille, dit-elle, il est assez à plaindre. » « Mais en quoi et pourquoi? Est-il poitrinaire ou enragé que tu crains qu'on y touche ?»« Il est pis que ça, répondit Brulette, il est égoïste. » Égoïste était un mot de monsieur le curé, que Brulette avait retenu et qui n'était point usité chez nous de mon temps. Comme Brulette avait une grande mémoire, elle disait comme cela quelquefois des paroles que j'aurais pu retenir aussi, mais que je ne retenais point, et, parlant, n'entendais point. J'eus la mauvaise honte de ne pas oser lui en demander l'explication et d'avoir l'air de m'en payer. Je m'imaginais d'ailleurs que c'était une maladie mortelle que Joseph avait et qu'une si grande disgrâce condamnait toutes mes injustices. Je demandai pardon à Brulette de l'avoir tourmentée, ajoutant oh, « Si j'avais su plus tôt ce que tu me dis, je n'aurais eu ni fiel ni rancune contre ce pauvre garçon. »« Comment ne t'en es-tu jamais aperçu ?» reprit-elle. Ne vois-tu pas comme il se laisse prévenir et obliger, sans avoir jamais l'idée d'en faire un remerciement, comme le moindre oubli l'offense, comme la moindre plaisanterie le choque, comme il boude et souffre à toute chose qui ne serait point remarquée d'un autre, et comme il faut toujours mettre du sien dans l'amitié qu'on a pour lui, sans qu'il comprenne que ce n'est point son dû, mais le rendu qu'on fait à Dieu pour l'amour du prochain. C'est donc l'effet de sa maladie, dis-je. Un peu intrigué des explications de Brulette. « N'est-ce point la pire qu'on puisse avoir dans le cœur ? » répondit-elle. « Et sa mère sait-elle qu'il a comme ça dans le cœur une maladie sans remède ? » ?»« Elle s'en doute bien, mais tu comprends que je ne lui en parle point de crainte de l'affliger. » »« Et n'a-t-on point tenté quelque chose pour sa guérison ?»« J'y ai fait, j'y ferai encore mon possible, » répondit-elle, continuant un propos où l'on ne s'entendait pas du tout. Mais je crois que mes ménagements augmentent son mal. Il est bien vrai, ajoutai-je après avoir réfléchi, que ce garçon a toujours eu dans son air quelque chose de singulier. Ma grand-mère, qui est morte, et tu sais qu'elle se piquait de connaissances sur l'avenir, disait qu'il avait le malheur écrit sur la figure, et qu'il était condamné à vivre dans les peines, ou à mourir dans la fleur de ses ans, à cause d'une ligne qu'il avait dans le front. Et depuis ce temps-là, je te confesse que quand José se chagrine, je crois voir cette ligne de disgrâce, encore que je ne sache point où ma grand-mère la voyait. Alors, j'ai peur de lui, ou plutôt de son destin, et je me sens porté à lui épargner tout reproche et tout malaise, comme à quelqu'un qui n'a pas longtemps à jouir de la vie. « Bah !» répondit Brulette en riant, « voilà les rêveries de ma grand-tante, je me les rappelle bien. Ne t'a-t-elle point dit aussi que les yeux clairs, comme sont ceux de Joseph, voit les esprits et toutes choses cachées. Mais moi, je n'en crois rien, non plus qu'au danger de mort pour lui. On vit longtemps avec l'esprit comme il l'a. On se soulage en tourmentant les autres, et on peut bien les enterrer tous, en les menaçant à toute heure de se laisser mourir. Je n'y comprenais plus rien, et j'allais questionner encore, quand Brulette me redemanda ses chaussures, où elle fourra lestement ses pieds, bien que les sabots fussent si petits que je n'avais pas pu y fourrer ma main. Alors, rappelant son chien et retroussant sa jupe, elle me laissa tout soucieux et tout ébahi de ce qu'elle m'avait conté, et aussi peu avancé avec elle que le premier jour. Le dimanche suivant, comme elle partait pour la messe de Saint-Chartier, où elle allait plus volontiers qu'à celle de notre paroisse, à cause que l'on dansait sur la place entre la messe et les vêpres, je lui demandai de l'accompagner. « Non, me dit-elle, j'y vais avec mon grand-père, et il n'aime pas à me voir suivi sur les chemins par un tas de galants. « Je ne suis point un tas de galants, lui dis-je, je suis ton cousin, et jamais mon oncle ne m'a ôté de son chemin. »« Eh bien, reprit-elle, ôte-toi du mien, pour aujourd'hui seulement. Mon père et moi, nous voulons causer avec José, qui est là dans la maison et qui doit nous suivre à la messe. »« C'est donc qu'il vient vous demander en mariage, et que vous êtes bien aise de l'écouter ? Est-ce que tu es fou, Tiennet, après ce que je t'ai dit de José ?»
Tu m'as dit qu'il avait une maladie qui le ferait vivre plus longtemps qu'un autre, et je ne vois pas en quoi ça peut me tranquilliser. »
« Te tranquilliser de quoi ?» fit Brulette étonnée. « Quelle maladie ? Où as-tu égaré tes esprits ?
Allons, je crois que tous les hommes sont fous. » Et, prenant le bras de son grand-père, qui venait à elle avec Joseph, elle partit légère comme un duvet et gaie comme une fauvette, tandis que mon brave homme d'oncle, qui ne voyait rien au-dessus d'elle, souriait aux passants et avait l'air de leur dire « Ce n'est pas vous qui avez une fille pareille à montrer. » Je l'ai suivi de loin pour voir si Joseph se familiariserait avec elle en chemin, s'il lui prendrait le bras, si le vieux les laisserait aller ensemble. Il n'en fut rien. Joseph marcha tout le temps à la gauche de mon oncle, tandis que Brulette marchait à sa droite, et ils avaient l'air de causer sérieusement. À la sortie de la messe, je demandai à Brulette de danser avec moi.
« Oh, tu t'y prends bien tard, » me dit-elle. « J'ai promis au moins 15 bourrées, et il faudra que tu reviennes vers l'heure de verre. »
Ce n'était pas Joseph qui, dans cette affaire-là, pouvait me donner du dépit, car il ne dansait jamais. Et pour m'ôter celui de voir Brulette entourée de ses autres amoureux, je suivis Joseph à l'auberge du Bœuf Couronné, où il allait voir sa mère, et où je voulais tuer le temps avec quelques amis. J'étais un peu fréquentier du cabaret, comme je vous ai dit, non à cause de la bouteille, qui ne m'a jamais mis hors de sens, mais pour l'amour de la compagnie, de la causette et de la chanson. J'ai trouvé plusieurs garçons et filles de connaissance avec lesquels je m'attablais, tandis que Joseph s'assit dans un coin, ne buvant goutte, ne disant mot, et se tenant là pour contenter sa mère, qui, tout en allant et venant, était bien aise de le voir et de lui dire un mot par-ci par-là. Je ne sais point si Joseph eût pensé à l'aider dans la peine qu'elle avait à servir tant de monde, mais Benoît n'eût point souffert qu'un garçon si distrait tournât et virât dans ses écuelles et dans ses bouteilles. Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de défunt Benoît. C'était un gros homme de haute mine, un peu rude en parole, mais bon vivant et beau diseur dans l'occasion. Il était assez juste pour faire de la Mariton l'estime qu'il devait, car c'était, à vrai dire, la reine des servantes, et jamais sa maison n'avait été mieux achalandée que depuis qu'elle y régnait. La chose que le père Brûlé avait annoncée à cette femme n'était cependant point arrivée. Le danger de son état l'avait guéri de la coquetterie, et elle faisait respecter sa personne aussi bien que la propriété de son bourgeois. Pour le vrai, c'était avant tout pour son fils qu'elle avait rangé son idée à un travail et à une prudence plus sévère que son naturel ne s'y portait de lui-même. C'était une si bonne mère en cela qu'au lieu de perdre de l'estime, elle s'en était attirée davantage depuis qu'elle était servante de cabaret, et c'est là une chose qui ne se voit point souvent dans nos campagnes ni ailleurs que j'ai ouï dire. En voyant Joseph plus blême et plus soucieux encore que d'habitude, je ne sais comment ce que ma grand-mère m'avait dit de lui, joint à la maladie, singulière dans mon idée, que lui imputait Brulette, me frappa l'esprit et me toucha le cœur. Sans doute, il me gardait rancune de quelques paroles dures qui m'étaient échappées. Je souhaitais la lui faire oublier et, le forçant à venir s'asseoir à notre table, je m'imaginais de le griser un peu par surprise, pensant, comme tous ceux de mon âge, qu'une petite fumée de vin blanc dans les esprits est souveraine pour dissiper la tristesse. Joseph, qui était peu attentionné aux actions d'autour de lui, laissa remplir son verre et pousser son coude si souvent que tout autre en aurait senti l'effet. Pour ceux qui l'incitaient à boire et qui payèrent d'exemple sans réflexion, il y en eut bien vite trop. Et pour moi, qui voulais garder mes jambes pour la danse, je m'arrêtai d'abord que je sentis qu'il n'y en avait assez. Joseph tomba dans une grande contemplation, appuya ses deux coudes sur la table et ne parut pas plus lourd ni plus léger qu'auparavant. On ne faisait plus attention à lui. Chacun riait ou jacassait pour son compte, et l'on se mit à chanter comme on chante quand on a bu, chacun dans son ton et dans sa mesure, une tablée disant son refrain à côté d'une autre tablée qui dit le sien, et tout ça ensemble faisant un sabbat de fou à casser la tête, le tout pour se porter à rire et à crier d'autant plus qu'on ne s'entend pas. Joseph resta là sans broncher, nous regardant, d'un air étonné, un bon bout de temps. Puis, il se leva et partit sans rien dire. Je pensais qu'il était peut-être malade et je le suivis. Mais il marchait droit et vite, comme un homme que le vin n'a point entamé, et il s'en alla si loin, en remontant la côte au-dessus de la ville de Saint-Chartier, que je le perdis de vue et revint sur mes pas
afin de ne point manquer ma bourrée avec Brulette. Elle dansait si joliment, ma Brulette, que tout un chacun la mangeait des yeux. Elle était folle de la danse, de la toilette et des compliments, mais elle n'encourageait personne à lui conter du sérieux, et quand les vêpres furent sonnées, elle s'en alla, sage et fière, à l'église, où elle priait bien un peu, mais où elle n'oubliait guère que tous les regards étaient braqués sur elle. Moi, je songeais que je n'avais point payé ma dépense au bœuf couronné, et j'y retournai pour compter avec la Mariton, laquelle en prit occasion de me demander par où son garçon avait passé. « Vous l'avez fait boire, dit-elle, et ce n'est point sa coutume. Vous devriez bien au moins ne pas le laisser courir seul. Un malheur vient si vite. » Fin de la veillée numéro 2. Veillée numéro 3 des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Les maîtres sonneurs de Georges Sand, veillée numéro 3. Je remontai la côte et pris le chemin que j'avais vu prendre à Joseph. Je manquai de lui le long de la route et n'en eus point nouvelle, sinon qu'on l'avait bien vu passer, mais non revenir. Ça me mena jusqu'au droit de la forêt, où j'allai questionner le forestier dont la maison, qui est une pièce fort ancienne, surmonte un grand morceau de brande couché en pente. C'est un endroit bien triste, malgré qu'on y voit de loin, et où il ne pousse, à la lisière des taillis de chêne, que de la fougère et des ajoncs. Le garde forestier était dans ce temps-là Jarvois, mon parrain, natif de Verneuil. Sitôt qu'il me vit, comme je n'allais pas souvent me promener si loin, il me fit tant de fêtes et d'amitié qu'il n'y eut pas moyen de s'en aller. « Ton camarade Joseph est venu séant, il y a tantôt une heure, me dit-il, pour nous demander si les charbonniers étaient dans la forêt. Sans doute que son maître lui aura commandé de s'en enquérir. Il n'était ni dérangé en parole, ni mal porté sur ses jambes, et il a monté jusqu'au gros chêne. Tu n'as donc point à t'en inquiéter, et, puisque te voilà, il faut boire une bouteille avec moi et attendre que ma femme revienne de quérir ses vaches, car elle serait fâchée si tu partais sans l'avoir vue. » N'ayant plus sujet de me tourmenter, je restai chez mon parrain jusque vers le coucher du soleil. C'était environ la mi-février, et, voyant venir la nuit, je fis mes adieux et pris le chemin d'Ansus, afin de gagner Verneuil et de m'en retourner tout droit chez nous par la route aux Anglais, sans repasser par Saint-Chartier, où je n'avais plus que faire. Mon parrain m'expliqua un peu mon chemin, car je n'avais traversé la forêt qu'une ou deux fois en ma vie. Vous savez que, dans le pays d'ici, nous ne courons guère au loin, surtout ceux de nous qui se donnent au travail de la terre et qui vivent autour des habitations comme des poussins alentour de la mue. Aussi, malgré que l'on m'avait bien averti, je donnais trop sur ma gauche et, au lieu de rencontrer la grande allée de chênes, je me trouvais dans les bouleaux, à une bonne demi-lieue du point que j'aurais dû gagner. La nuit était tout à fait tombée et je n'y voyais plus goutte, car en ce temps, la forêt de Saint-Chartier était encore une belle forêt, rapport non à son étendue, qui n'a jamais été de conséquence, mais à l'âge des arbres, qui ne laissait guère passer la clarté entre le ciel et la terre. Ce qu'elle y gagnait en verdeur et fierté, elle vous le faisait payer du reste. Ce n'était que ronces et fretas, chemins défoncés et ravines d'une bourbe noire et légère, où l'on ne tirait pas trop la semelle, mais où l'on s'enfonçait jusqu'aux genoux quand on s'écartait un peu du tracé. Si bien que, perdu sous la futaie, déchiré et embourbé dans les éclaircies, je commençais à maugréer contre la mauvaise heure et le mauvais endroit. Après avoir pataugé assez longtemps pour en avoir chaud, malgré que la soirée fût bien fraîche, je me trouvai dans des fougères sèches, si hautes que j'en avais jusqu'au menton, et en levant les yeux devant moi, je vis, dans le gris de la nuit, comme une grosse masse noire au milieu de la lande. Je connus que ce devait être le chêne et que j'étais arrivé au fin bout de la forêt. Je n'avais jamais vu l'arbre, mais j'en avais ouï parler, pour ce qu'il était renommé un des plus anciens du pays, et par le dire des autres, je savais comment il était fait. Vous n'êtes point sans l'avoir vu. C'est un chêne bourru, étêté de jeunesse par quelque accident et qui a poussé en épaisseur. Son feuillage, tout desséché par l'hiver, tenait encore dru, et il paraissait monter dans le ciel comme une roche. J'allais tirer de ce côté-là, pensant que j'y trouverais la sente qui coupait le bois en droite ligne, lorsque j'entendis le son d'une musique qui était approchant celui d'une cornemuse, mais qui menait si grand bruit qu'on eût dit d'un tonnerre. Ne me demandez point comment une chose qui aurait dû me rassurer en me marquant le voisinage d'une personne humaine m'épeura comme un petit enfant. Il faut bien vous dire que, malgré mes 19 ans et une bonne paire de poings que j'avais alors, du moment que je m'étais vu égaré dans le bois, je m'étais senti mal tranquille. Ce n'est pas pour quelques loups qui descendent de temps en temps des grands bois de Saint-Ouste dans cette forêt-là que j'aurais manqué de cœur, ni pour la rencontre de quelques chrétiens mal intentionnés. J'étais enfroidi de cette sorte de crainte qu'on ne peut pas s'expliquer à soi-même, parce qu'on ne sait pas trop où en est la cause. La nuit, la brume d'hiver, un tas de bruits qu'on entend dans les bois et qui sont autres que ceux de la plaine, un tas de folles histoires qu'on a entendues raconter et qui vous reviennent dans la tête, enfin, l'idée qu'on est esselé, loin de son endroit. Il y a de quoi vous troubler l'esprit quand on est jeune, voire quand on ne l'est plus. Moquez-vous de moi, si vous voulez. Cette musique, dans un lieu si peu fréquenté, me parut endiablée. Elle chantait trop fort pour être naturelle, et surtout, elle chantait un air si triste et si singulier que ça ne ressemblait à aucun air connu sur la terre chrétienne. Je doublai le pas, mais je m'arrêtai, étonné d'un autre bruit. Tandis que la musique braillait d'un côté, une clochette sonnait de l'autre, et ces deux résonances venaient sur moi comme pour m'empêcher d'avancer ou de reculer. Je me jetai de côté en me baissant dans les fougères, mais au mouvement qui s'ensuivit, quelque chose fit feu des quatre pieds tout auprès de moi, et je vis un grand animal noir que je ne pus envisager bondir, prendre sa course et disparaître. Tout aussitôt, de tous les points de la fougeraie sautèrent, coururent, trépignèrent une quantité d'animaux pareils, qui me parurent gagner tous vers la clochette et vers la musique, lesquels s'entendaient alors comme proches l'une de l'autre. Il y avait peut-être bien 200 de ces bêtes, mais j'en vis au moins 30 000, car la peur me galopait rude, et je commençais à avoir des étincelles et des taches blanches dans la vue, comme la frayeur en donne à ceux qui ne s'en défendent point. Je ne sais par quelle jambe je fus porté auprès du chêne. Je ne sentais plus les miennes. Je me trouvais là, tout étonné d'avoir fait ce bout de chemin comme un tourbillon de vent, et, quand je repris mon souffle, je n'entendis plus rien, au loin ni auprès. Je ne vis plus rien, ni sous l'arbre, ni sur la fougeraie, et je ne fus pas bien sûr de n'avoir point rêvé un sabbat de musique folle et de mauvaises bêtes. Je commençais à me ravoir et à regarder en quel lieu j'étais. La branchure du chêne couvre une grande place herbue, et il y faisait si noir que je ne voyais point mes pieds, si bien que je me heurtais contre une grosse racine et tombais, les mains en avant, sur le corps d'un homme qui était allongé là, comme mort ou endormi. Je ne sais point ce que la peur me fit dire ou crier, mais ma voix fut reconnue, et tout aussitôt celle de José me répondit. « C'est donc toi, Tiennet ? Et qu'est-ce que tu viens faire ici à pareille heure ?»« Et toi-même, qui fais-tu, mon vieux ? » lui dis-je, bien content et bien consolé de le trouver là. « Je t'ai cherché tout le tantôt. Ta mère a été en peine de toi, et je te croyais retourné vers elle depuis longtemps. »« J'avais affaire par ici, » répondit-il, « et avant de m'en aller, je me reposais là, voilà tout. »« Tu n'as donc pas peur de te trouver comme ça, de nuit, dans un endroit si laid et si triste ?» « Peur de quoi ? Et pourquoi, Tiennet ? Je ne t'entends point. » J'eus honte de lui confesser combien j'avais été sot. Cependant, je me risquai à lui demander s'il n'avait pas vu du monde et des bêtes dans la clairière. « Oui, oui, répondit-il, j'ai vu beaucoup de bêtes, et du monde aussi. Mais tout ça n'est pas bien méchant, et nous pouvons nous en aller tous deux sans que mal nous en arrive. » Je m'imaginais à sa voix qu'il se gaussait un peu de ma frayeur, et je quittai le chêne avec lui. mais quand nous fûmes hors de son ombrage, il me sembla que José n'avait ni sa taille, ni sa figure des autres fois. Il me paraissait plus grand, portant plus haut la tête, marchant d'un pas plus vif et parlant avec plus de hardiesse. Ça ne me rassura point, car toutes sortes de folies me traversèrent la remembrance. Ce n'était point seulement par ma grand-mère que je m'étais laissé compter que les gens qui ont la figure blanche, l'œil vert, l'humeur triste et la parole difficile à comprendre sont portés à s'accointer avec les mauvais esprits et, en tout pays, les vieux arbres sont mal famés pour la hantise des sorciers et des autres. Je n'osais respirer tant que nous fûmes dans la fougeraie. Je m'attendais toujours à voir repasser ce qui m'était apparu en songe de l'âme ou en vérité des sens. Tout resta tranquille, et il n'y eut d'autre bruit que celui des branches sèches qui se cassaient à notre passage, ou d'un restant de glace qui craquait sous nos pieds. Joseph, marchant le premier, ne prit point la grande allée, mais coupa à travers le fourré. On eût dit d'un lièvre au fait de tous les recoins, et il me mena si vite au guet de l'ignoré, sans traverser le bourg des potiers, que je me crus arrivé par enchantement. Là, il me quitta sans avoir desserré les dents, sinon pour me dire qu'il voulait se faire voir à sa mère, puisqu'elle était en peine de lui. Et il reprit le chemin de Saint-Chartier, tandis que je tranchais droit sur ma demeurance par les grands communaux. Je ne me sentis pas plutôt dans le pays que je connaissais que mon angoisse me quitta, et que j'eus grande honte de ne pas l'avoir surmontée. Sans doute, Joseph m'aurait parlé des choses que je désirais savoir si je l'eusse questionné, car pour la première fois, il avait quitté son air endormi, et je lui avais surpris, pour un moment, comme un rire dans la voix et comme une intention d'assistance dans la conduite. Pourtant, après que j'eus dormi sur l'aventure, mes sens étant bien calmés, je m'assurai de n'avoir point rêvé ce qui s'était passé dans la fougeraie, et je trouvai, dans la quiétise de Joseph, quelque chose de louche. Les bêtes que j'avais vues là, en si grosse quantité, n'étaient point d'une présence ordinaire. Dans nos pays, on n'a par troupeau que des ouailles, et ma vision était d'animaux d'une autre couleur et d'une autre mesure. Ce n'étaient ni chevaux, ni bœufs, ni moutons, ni chèvres, et on ne souffrait d'ailleurs aucun bétail paître dans la forêt. À l'heure où je vous parle, je trouve que j'étais bien sot. Pourtant, il y a bien de l'inconnu dans les affaires de ce monde où l'homme met le nez, à meilleure enseigne dans celle dont le bon Dieu s'est réservé le secret. Tant il y a que je n'osais point questionner Joseph, car si l'on peut être curieux des bonnes idées, on ne doit point l'être des mauvaises, et mêmement, on répugne toujours à se fourrer dans les affaires où l'on peut trouver plus qu'on ne cherche. Fin de la veillée numéro 3.
Veillée numéro 4 des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Amy. Les maîtres sonneurs de George Sand. Veillée numéro 4. Une chose me donna encore plus à penser par la suite des jours. C'est que l'on s'aperçut à l'aulnière que José découchait de temps en temps. On l'en plaisantait, s'imaginant qu'il avait une amourette. Mais on eut beau le suivre et l'observer, jamais on ne le vit s'approcher d'un lieu habité, ni rencontrer une personne vivante. Il s'en allait à travers champs et gagnait le large, si vite et si malignement qu'il n'y avait aucun moyen de surprendre son secret. Il revenait au petit jour et se trouvait à son ouvrage comme les autres, et au lieu de paraître là, il paraissait plus léger et plus content qu'à son habitude. Cela fut observé par trois fois, dans le courant de l'hiver, qui eut pourtant grande rigueur et longue durée cette année-là. Il n'y eut neige ou bise capable d'empêcher José de courir de nuit, quand l'heure était venue pour sa fantaisie. On s'imagina aussi qu'il était de ceux qui marchent ou travaillent dans le sommeil, mais de tout cela il n'était rien, comme vous le verrez. Mêmement, la nuit de Noël, comme verrait le sabotier s'en allait faire réveillon chez ses parents, à Louroué, il vit, sous l'orme râteau, non pas le géant qu'on dit s'y promener souvent avec son râteau sur l'épaule, mais un grand homme noir qui n'avait pas bonne mine et qui marmottait tout bas quelque chose avec un autre homme, moins grand et d'une figure un peu plus chrétienne. Véret n'eut pas absolument peur et passa assez près d'eux pour pouvoir écouter ce qu'ils se disaient. Mais dès que les deux autres l'eurent vu, ils se séparèrent. L'homme noir dévala on ne sait où, et son camarade, s'approchant de Véret, lui dit d'une voix qui lui parut tout étranglée « Où vas-tu donc, comme ça, Denis Véret ?» Le sabotier commença de s'étonner, et sachant qu'on ne doit point répondre aux choses de la nuit, surtout à côté des mauvais arbres, il passa son chemin en détournant la tête. Mais il fut suivi de celui qu'il jugeait être un esprit, et qui marchait derrière lui, mettant son pas dans le sien. Quand ils furent en haut de la plaine, le poursuivant tourna à main gauche, disant « Bonsoir, Denis Véret !» Et ce ne fut que là que Véret reconnut Joseph et se moqua de lui-même, mais toutefois sans pouvoir s'imaginer pour quel motif et en quelle société il s'était trouvé à l'orme entre 1 et 2 heures du matin. Quand cette dernière chose vint à ma connaissance, j'en eus du regret, et je me fis reproche de n'avoir point détourné Joseph du mauvais chemin qu'il paraissait vouloir prendre. Mais j'avais laissé passer tant de temps là-dessus que je n'osais y revenir. J'en parlai à Brulette, qui ne fit que s'en moquer, d'où je commençais à croire qu'ils avaient une amour cachée et que j'avais été pris pour dupe, ainsi que les gens qui voulaient y voir de la magie et n'y voyaient que du feu. J'en fus plus affligé que courroucé. Joseph, si toqué et si mou à l'ouvrage, me paraissait pour Brulette une triste compagnie et un pauvre soutien. Je pouvais bien lui dire que, sans parler de moi, elle aurait pu faire un meilleur tri, mais je ne m'en sentais point le courage, craignant de la fâcher et de perdre son amitié, qui me paraissait encore douce, même sans le restant de ses bonnes grâces. Un soir, revenant à mon logis, je trouvai Joseph assis au bord de la fontaine, qu'on appelle la Font de Fond. Ma maison, connue alors sous le nom de la Croix de Pardieu, parce qu'elle se trouvait bâtie auprès d'un carroir de chemin dont on a retranché depuis la moitié, donnait sur cette grande pelouse fine que vous avez vue vendre et dépecer comme bien communal et terre vague il n'y a pas longtemps. C'est grand dommage pour le petit monde qui nourrissait ses bêtes et qui n'a pu y rien acheter. C'était chemin et pâturage bien large, bien vert, et arrosé à l'aventure des belles eaux de la source, qui n'étaient point réglées et s'en allaient de ci et de là sur un herbage court, tondu à toute heure par les troupeaux, et réjouissant à voir par son étendue. Je me contentai de dire bonsoir à Joseph quand il se leva et se mit à marcher à mon côté, cherchant à avoir conversation avec moi, et paraissant si agité que j'en fus inquiet. « Qu'est-ce que tu as donc ?» lui dis-je enfin, voyant qu'il parlait tout de travers et se tourmentait le corps de soupirs et de contorsions, comme s'il eût passé dans une fourmilière. « Tu me demandes ça ? » dit-il avec impatience. « Ça ne te fait donc rien ? Tu es donc sourd ?»« Qui ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» m'écriai-je, pensant qu'il avait quelque vision et ne me souciant pas d'en avoir ma part. Puis j'écoutai. Et saisit tout au loin le son d'une musette qui me parut n'avoir rien que de naturel. Eh bien, lui dis-je, c'est quelque cornemuseux qui revient d'une noce du côté de la Berthenoux. En quoi est-ce que ça te gêne ? Joseph répondit d'un air assuré. C'est la musette à Carnat, mais ce n'est point lui qui en joue. C'est quelqu'un qui est encore plus maladroit que lui. Maladroit ? Tu trouves Carnat maladroit sur la musette ? Maladroit de ses mains, non pas, mais maladroit de son idée, tiens-né. Oh, le pauvre homme, il n'est pas digne d'avoir le moyen d'une musette. Et celui qui s'en essaye à cette heure mériterait que le bon Dieu lui retire son vent de la poitrine. Voilà des choses bien étranges que tu me dis, et je ne sais point où tu les prends. Comment peux-tu connaître que cette musette-là est celle à Carnat ? Il me semble à moi que, musette pour musette, ça braille toujours de la même mode. J'entends bien que celle qui sonne là-bas n'est pas soufflée comme il faut, et que l'air est estropié un si peu, mais ça ne me gêne point. car je n'en saurais pas faire autant. Est-ce que tu crois que tu ferais mieux ? Je ne sais pas, mais pour sûr, il y en a qui font mieux que ce cornemuseux-là, et mieux que Carnat son maître. Il y en a qui sont dans la vérité de la chose. Où les as-tu trouvés ? Où sont-ils, ces gens dont tu parles ? Je ne sais pas, mais il y a quelque part une vérité, et c'est le tout de la rencontrer, puisqu'on n'a pas le temps et le moyen de la chercher. C'est donc, José, que tu aurais ton idée tournée à la musiquerie ? Voilà qui m'étonnerait bien. Je t'ai toujours connu muet comme une tanche, ne retenant et ne ruminant aucune chanson. Car quand tu t'essayais sur le chalumeau de paille, comme font beaucoup de patours, tu changeais tous les airs que tu avais entendus, de telle manière qu'on ne les reconnaissait plus. De ce côté-là, on te jugeait encore plus innocent que tous les enfants innocents qui s'imaginent de cornemuser sur les pipeaux. Or, si tu dis que Carnat ne te contente pas, lui qui fait danser si bien en mesure et qui mène ses doigts si subtilement, tu me donnes encore plus à penser que tu n'as pas l'oreille bonne. « Oui, oui, répondit Joseph, tu as raison de me reprendre, car je dis des sottises, et je parle de ce que je ne sais pas. Or donc, bonne nuit, Tiennet, oublie ce que je t'ai dit, car ça n'est pas ce que j'aurais voulu dire, mais j'y penserai, pour tâcher de te le dire mieux une autre fois. » Et il s'en alla vitement, comme regrettant d'avoir parlé. Mais Brulette, qui sortait de chez nous avec ma sœur, l'arrêta, le ramena vers moi et nous dit « Il est temps que ces histoires-là finissent. Voilà ma cousine qui s'en est tant laissé dire qu'il tient José pour un loup-garou, et il faut s'expliquer à la fin. » « Qu'il soit donc fait selon ton vouloir, » répondit Joseph, « car je suis fatigué de passer pour sorcier, et j'aime encore mieux passer pour imbécile. » « Non, tu n'es ni imbécile ni fou, » reprit Brulette. « Mais tu es bien obstiné, mon pauvre José. Sache donc, Tiennet, que ce gars-là n'a rien de mauvais dans la tête, sinon une fantaisie de musique qui n'est pas si déraisonnable que dangereuse. » « Alors, » répondis-je, « je comprends ce qu'il me disait tout à l'heure. Mais où diable a-t-il pris pareille idée ?»« Un petit moment, » reprit Brulette. Ne le fâchons pas injustement. Ne te dépêche pas de dire qu'il est incapable de musiquer, car tu penses peut-être, comme sa mère et comme mon grand-père, qu'il a l'esprit bouché à cela, comme autrefois au catéchisme. Moi, je dirais que c'est toi, et mon grand-père, et la bonne Mariton qui n'y connaissait rien. Joseph ne peut chanter, non qu'il soit à court d'haleine, mais parce qu'il ne fait point de son gosier ce qu'il veut. Et comme il ne se contente point de lui-même, il est mieux ne jamais faire usage de sa voix qui lui est rétive. Alors, bien naturellement, il souhaite de musiquer sur un instrument qui n'est une voix en place de la sienne, et qui chante tout ce qui vient dans son idée. C'est pour avoir toujours manqué de cette voix d'emprunt que notre gars a toujours été triste ou songeur, ou comme ravi en lui-même. C'est tout justement comme elle te le dit, m'observa Joseph, qui paraissait soulagé d'entendre cette belle jeunesse le débarrasser de ses pensées en les rendant compréhensibles pour moi. Mais ce qu'elle ne te dit point, c'est qu'elle a une voix en ma place, et une voix si douce, si claire, et qui dit si justement les choses entendues, que je ne prenais déjà, étant petit enfant, mon plus grand plaisir à l'écouter. Mais, poursuivit Brulette, nous avions bien quelquefois maille à partir ensemble à ce sujet-là. J'aimais à imiter toutes les petites filles de campagne, qui ont pour coutume, en gardant leurs bêtes, de crier leurs chansons à pleine tête, pour se faire entendre au loin. Et, comme en criant comme ça, j'outrepassais ma force, je gâtais tout, et je faisais mal aux oreilles de José. Et puis, quand je me suis rangée à chanter raisonnablement, il s'est trouvé que j'avais si bonne mémoire pour retenir toute chose chantable, celle qui contente notre gars comme celle qui l'encolère, que plus d'une fois je l'ai vu me brûler compagnie tout d'un coup et s'en aller sans rien me dire, encore qu'il m'eût prié de chanter. Pour ce qui est de ça, il n'est pas toujours bien honnête ni gracieux. Mais comme c'est lui, j'en ris au lieu de m'en fâcher. Je sais bien qu'il y reviendra, car il n'a pas la souvenance certaine, et quand il a entendu quelque chansonnette qu'il ne juge point trop laide, il accourt me la demander, et il est bien sûr de la trouver dans ma tête. J'observai à Brulette que Joseph, n'ayant pas de souvenance, ne me paraissait point né pour cornemuser. Ô dame, c'est là qu'il faut encore retourner ton jugement de l'envers à l'endroit, répondit-elle. Vois-tu, mon pauvre Tiennet, ni toi ni moi ne connaissons la vérité de la chose, comme dit ce gars-là. Mais à force de vivre avec ses songeries, j'ai fini par comprendre ce qu'il ne sait pas ou n'ose pas dire. La vérité de la chose, c'est que José prétend inventer lui-même sa musique, et qu'il l'invente de vrai. Il a réussi à se faire une flûte d'un roseau, et il chante là-dessus, je ne sais comment, car il n'a jamais voulu se laisser ouïr de moi, ni de personne de chez nous. Quand il veut flûter, il s'en va le dimanche, et mêmement la nuit, dans des endroits non fréquentés, où il flûte à sa guise. Et quand je lui demande de flûter pour moi, il me répond qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut savoir, et qu'il m'en régalera quand ça en vaudra la peine. Voilà pourquoi, depuis qu'il a inventé ce flûteriot, il s'absente tous les dimanches et quelquefois sur la semaine, pendant la nuit, quand sa musique le tient trop fort. Tu vois, Tiennet, que toutes ces affaires-là sont bien innocentes. Mais c'est à présent qu'il faut nous expliquer tous les trois, mes amis, car voilà José qui se met dans la volonté d'employer son premier gage, ayant jusqu'à cette heure tout donné en garde à sa mère, à faire achat d'une musette. Et comme il dit qu'il est mince ouvrier, et que son cœur voudrait retirer la Mariton de ses fatigues, il prétendrait se faire cornemuseau de son état, parce que, de vrai, on y gagne gros. L'idée serait bonne, dit ma sœur qui nous écoutait, si, pour de vrai, Joseph avait le talent. Mais, avant d'acheter la musette, m'est avis qu'il faudrait s'assurer de la manière de s'en servir. Ça, c'est affaire de temps et de patience, dit Brulette. Mais là n'est point l'empêchement. Est-ce que vous ne savez pas que voilà, depuis un tour de temps, le garçon à Carnat, qui s'essaye aussi à cornemuser, à seule fin de garder au pays la place de son père ? Oui, oui, répondis-je, et je vois ce qui en résulte. Carnat est vieux, et on aurait pu avoir sa succession. Mais son fils qui la veut la gardera, parce qu'il est riche et bien appuyé dans le pays. Tandis que toi, José, tu n'as encore ni argent pour acheter ta musette, ni maître pour t'enseigner, ni ami de ta musique pour te soutenir. C'est la vérité, répondit José tristement. Je n'ai encore que mon idée, mon roseau et elle. Ce disant, il désignait Brulette, qui lui prit la main bien amiteusement en lui répondant « José, je crois bien à ce qui est dans ta tête, mais je ne peux pas être assuré de ce qui en sortira. » Vouloir et pouvoir sont deux. Songer et flûter diffèrent grandement. Je sais que tu as dans les oreilles, ou dans la cervelle, ou dans le cœur, une vraie musique du bon Dieu, parce que j'ai vu ça dans tes yeux quand j'étais petite, et que, plus d'une fois, me prenant sur tes genoux, tu me disais d'un air charmé « Écoute, ne fais pas de bruit, et tâche de te souvenir. » Alors moi, j'écoutais bien fidèlement, et je n'entendais que le vent qui causait dans les feuillages, ou l'eau qui grelottait au long des cailloux. Mais toi, tu entendais autre chose, et tu en étais si assuré que je l'étais par contre. Eh bien, mon garçon, conserve dans ton secret ces jolies musiques qui te sont bonnes et douces, mais n'essaye point de faire le ménétrier, car il arrivera ceci ou cela. Ou tu ne pourras jamais faire dire à ta musette ce que l'eau et le vent te racontent de l'oreille. Ou bien, si tu deviens musiqueux fin, les autres petits musiqueux du pays te chercheront noise et t'empêcheront de pratiquer. Ils te voudront mal et te causeront des peines, comme ils ont coutume de faire, pour empêcher qu'on ait part à leur profit et à leur renom. Ils y mettent de l'intérêt et de la gloriole aussi. Ils sont ici aux alentours une douzaine, qui ne s'accordent guère entre eux, mais qui s'entendent et se soutiennent pour ne point laisser pousser de nouvelles graines sur leur terre. Ta mère, qui entend causer les cornemuseux le dimanche, car ils sont tous gens très asséchés de soif, et coutumiers de boire bien avant dans la nuit après les danses, et très chagrinés de te voir penser à entrer dans une pareille corporation. Ils sont rudes et méchants, et toujours des premiers exposés dans les querelles et batteries. L'habitude d'être en fête et chômage les rend ivrognes et dépensiers. Enfin, c'est du monde qui ne te ressemble point, et où tu te gâterais selon elle. Selon moi, c'est du monde jaloux et porté à la vengeance, qui t'écraserait l'esprit et peut-être le corps. Par ainsi, José, je te prie de reculer au moins ton dessein et d'ajourner ton envie, et mêmement d'y renoncer tout à fait, si ça n'est pas trop demandé à ton amitié pour moi, pour ta mère et pour Tiennet. Comme je soutenais les raisons de Brulette, qui me paraissaient bonnes, José fut bien désolé, mais il reprit courage et nous dit « Mes amis, je vous suis obligé de vos conseils, qui sont dans l'intention de mes vrais intérêts, je le sais, mais je vous prie de me donner encore liberté d'esprit pour un bout de temps. Quand j'en serai venu où je crois arriver, je vous prierai de m'entendre flûter ou cornemuser, s'il plaît à Dieu que je puisse acheter une musette. Alors, si vous jugez que je suis bon à quelque chose, ma musique vaudra la peine que je m'en serve et que je soutienne la guerre pour l'amour d'elle. Sinon, je continuerai à piocher la terre et à me divertir le dimanche avec mon flûtage, sans en tirer profit ni faire ombrage à personne. Promettez-moi ça et je patienterai. » Nous lui en fîmes promesse pour le tranquilliser, car il paraissait plus choqué de nos craintes que touché de notre intérêt. Je le regardais dans la nuit, qui était toute semée d'étoiles, et le voyais d'autant mieux que la belle eau de la fontaine était devant nous, comme un miroir qui nous renvoyait à la figure la blancheur du ciel. J'observais ses yeux, qui avaient la couleur de l'eau même, et qui paraissaient toujours regarder les choses que les autres ne voyaient point. Un mois environ après ce jour-là, Joseph me vint trouver à la maison. « Le temps est arrivé, me dit-il, avec un regard net et une parole sûre, où je veux que les deux seules personnes en qui j'ai confiance connaissent mon flûter. Je veux donc que Brulette vienne ici demain soir, parce que nous y serons tranquilles tous les trois. Je sais que tes parents partent le matin pour aller en pèlerinage, rapport à la fièvre de ton frère cadet. Tu seras donc seul dans la maison, qui est si bien éloignée dans la campagne que nous ne risquons pas d'être entendus. J'ai averti Brulette. Elle est consentante à sortir du bourg à la nuit. Je l'attendrai dans le petit chemin et nous viendrons ici te trouver sans que personne ne s'en avise. Brulette compte sur toi pour ne jamais parler de ça, et son grand-père, qui veut tout ce qu'elle souhaite, y est consentant aussi, moyennant ta parole que j'ai donnée d'avance. » À l'heure dite, j'étais devant ma porte, ayant poussé toutes les huisseries pour que les passants, s'il en passait, me crussent couché ou absent, et j'attendais l'arrivée de Brulette et de Joseph. On était alors au printemps, et comme il avait tonné dans le jour, le ciel était encore chargé de nuages très épais. Il faisait de bons coups de vent tiède qui apportaient toutes les jolies senteurs du mois de mai. J'écoutais les rossignols qui se répondaient dans la campagne, aussi loin que lui pouvait s'étendre, et je me disais que Joseph aurait grand-peine à flûter aussi finement. Je regardais au loin toutes les petites clartés des maisons s'éteindre une à une dans le bourg. Et environ 10 minutes après que la dernière fut soufflée, je vis arriver, tout droit devant moi, le jeune couple que j'attendais. Ils avaient marché si doucement sur les herbes nouvelles et si bien côtoyé les grands buissons du chemin que je ne les avais vus ni entendus approcher. Je les fis entrer chez nous où j'avais allumé la lampe, et quand je les vis tous deux, elle si coquettement coiffée et si quiètement fière, lui toujours si froid et si pensif, je me représentais mal deux amoureux enflammés de tendresse. Pendant que je causais un peu avec Brulette pour lui faire les honneurs de ma demeurance, qui était assez gentille et dont j'aurais souhaité qu'elle prît envie, Joseph, sans me rien dire, s'était mis en devoir d'accommoder sa flûte. Il trouva que le temps humide l'avait enrhumé, et jeta une poignée de chènevottes dans l'âtre pour les réchauffer. Quand les chènevottes s'enflammèrent, elles envoyèrent une grande clarté à son visage penché vers le foyer, et je lui trouvai un air si étrange que j'en fis tout bas l'observation à Brulette. « Vous aurez beau penser, lui dis-je, qu'il ne se cache le jour et ne court la nuit que pour flûter tout son sou. Je sais, moi, qu'il y a en lui et autour de lui quelque secret qu'il ne nous dit pas. » « Bah ! » fit-elle en riant, « parce que Véret le sabotier s'imagine de l'avoir vu avec un grand homme noir à l'orme râteau ?»« Possible qu'il ait rêvé ça, » répondis-je, « mais moi, je sais bien ce que j'ai vu et entendu à la forêt. » Qu'est-ce que tu as vu, Tiennet ? Dit tout d'un coup José, qui ne perdait rien de notre discours, encore que nous eussions parlé bien bas. Qu'est-ce que tu as entendu ? Tu as vu celui qui est mon ami, et que je ne peux te montrer. Mais ce que tu as entendu, tu vas l'entendre encore, si la chose te plaît. Là-dessus, il souffla dans sa flûte, l'œil tout en feu, et la figure comme embrasée par une fièvre. Ce qu'il flûta, ne me le demandez point. Je ne sais si le diable y eut connu quelque chose. Tant qu'à moi, je n'y connus rien, sinon qu'il me parut bien que c'était le même air que j'avais ouï cornemuser dans la fougueraie. Mais j'avais eu si belle peur dans ce moment-là que je ne m'étais point embarrassé d'écouter le tout. Et, soit que la musique en fût longue, soit que Joseph y mît du sien, il ne décota de flûter d'un gros quart d'heure, menant ses doigts bien finement, ne dessoufflant mi, et tirant si grande sonnerie de son méchant roseau, que, dans des moments, on eût dit trois cornemuses jouant ensemble. Par d'autres fois, il faisait si doux, qu'on entendait le grelet au-dedans de la maison et le rossignol au-dehors. Et quand Joseph faisait doux, je confesse que j'y prenais plaisir, bien que le tout ensemble fût si mal ressemblant à ce que nous avons coutume d'entendre, que ça me représentait un sabbat de fou. Oh, oh, que je lui dis quand il eut fini, voilà bien la musique enragée. Où diantre prends-tu tout ça? À quoi que ça peut servir? Et qu'est-ce que tu veux signifier par là? Il ne me fit point réponse, et sembla même qu'il ne m'entendait point. Il regardait Brulette, qui s'était appuyée contre une chaise et qui avait la figure tournée du côté du mur. Comme elle ne disait mot, Joseph fut pris d'une flambée de colère, soit contre elle, soit contre lui-même, et je le vis faire comme s'il voulait briser sa flûte entre ses mains. Mais au moment même, la belle fille regarda de son côté, et je fus bien étonné de voir qu'elle avait des grosses larmes au long des joues. Alors Joseph courut auprès d'elle, et lui prenant vivement les mains, « Explique-toi, ma mignonne, dit-il, et fais-moi connaître si c'est de compassion pour moi que tu pleures, ou si c'est de consentement. » « Je ne sache point, répondit-elle, que le contentement d'une chose comme ça puisse faire pleurer. Ne me demande point si c'est que j'ai de l'aise ou du mal. Ce que je sais, c'est que je ne m'en puis empêcher, voilà tout. » « Mais à quoi est-ce que tu as pensé pendant ma flûterie ? » dit Joseph en la vixant beaucoup. « À tant de choses que je ne saurais point t'en rendre compte, répliqua Brulette. « Mais enfin, dis-en une !» reprit-il sur un ton qui signifiait de l'impatience et du commandement. « Je n'ai pensé à rien, dit Brulette, mais j'ai eu mille ressouvenances du temps passé. Il ne me semblait point te voir flûter, encore que je t'ouisse bien clairement. Mais tu me paraissais comme dans l'âge où nous demeurions ensemble, et je me sentais comme portée avec toi par un grand vent qui nous promenait tantôt sur les blés mûrs, tantôt sur des herbes folles, tantôt sur les eaux courantes, et je voyais des prés, des bois, des fontaines, des pleins champs de fleurs, et des pleins ciels d'oiseaux qui passaient dans les nuées. J'ai vu aussi, dans ma songerie, ta mère et mon grand-père, assis devant le feu, et causant de choses que je n'entendais point, tandis que je te voyais à genoux dans un coin, disant ta prière, et que je me sentais comme endormie dans mon petit lit. J'ai vu encore la terre couverte de neige et des saulnées remplies d'alouettes et puis des nuits remplies d'étoiles filantes et nous les regardions assis tous deux sur un tertre pendant que nos bêtes faisaient le petit bruit de tondre l'herbe. Enfin, j'ai vu tant de rêves que c'était déjà embrouillé dans ma tête et si ça m'a donné l'envie de pleurer, ce n'est point par chagrin, mais par une secousse de mes esprits que je ne veux point expliquer du tout. » C'est bien, dit José. Ce que j'ai songé, ce que j'ai vu en flûtant, tu l'as vu aussi. Merci, Brulette. Par toi, je sais que je ne suis point fou et qu'il y a une vérité dans ce qu'on entend comme dans ce qu'on voit. Oui, oui, fit-il encore, en se promenant dans la chambre à grandes enjambées et en élevant sa flûte au-dessus de sa tête. Ça parle, ces méchants bouts de roseaux. Ça dit ce qu'on pense, ça montre comme avec les yeux. Ça raconte comme avec les mots, ça aime comme avec le cœur. Ça vit, ça existe. À présent, José le fou, José l'innocent, José l'ébervigé, tu peux bien retomber dans ton imbécilité. Tu es aussi fort, aussi savant, aussi heureux qu'un autre. Disant cela, il s'assit, sans plus faire attention à aucune autre chose autour de lui. Fin de la quatrième veillée. Enregistré par Amy.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get three-pound packs of flavorful 80% lean ground beef for $2.99 a pound with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.